France Culture.
Le journal Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin. Bonsoir à toutes et tous. Triple perquisition cet après-midi dans le cadre d'une enquête pour corruption qui vise l'actuel ministre de la Culture, Rachida Dati. Précision dans un instant d'Élodie Guéguin. Rachida Dati est l'un des personnages cités lors des auditions de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Devant ses membres cet après-midi, nos confrères Thomas Legrand et Patrick Cohen, suivi Pierre Repère. Également au sommaire, les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles, sous pression pour trouver le moyen de financer la guerre en Ukraine. C'est urgent, est venu leur dire Volodymyr Zelensky. Enfin, maire pour quoi faire, comme chaque jeudi jusqu'aux élections municipales, s'intéresse aujourd'hui à un défi pour de nombreux élus de communes rurales, l'accès à l'ingénierie. Reportage Jeanne Serrin. Les domiciles parisiens de Rachida Dati, la mairie du 7e arrondissement de Paris et le ministère de la Culture ont fait l'objet ce jeudi de perquisitions menées par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. L'information a été révélée à la mi-journée par le Nouvel Obs et confirmée ce soir par le parquet national financier. L'actuel ministre de la Culture est en effet visé par une nouvelle enquête pour corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux et détournement de fonds public. Élodie Guéguin.
Cette fois, ce n'est pas l'affaire Renault pour laquelle Rachida Dati sera jugée en septembre, mais cela concerne encore les clients qu'elle a eus lorsqu'elle était dans le même temps avocate et députée européenne entre 2009 et 2019. Selon le Nouvel Obs, les juges s'intéressent aux rémunérations que lui ont versées des entreprises du secteur du pétrole et du gaz à un moment où elle multipliait à Strasbourg et Bruxelles les prises de position favorables aux acteurs de l'énergie. Rachida Dati aurait ainsi touché près de 300 000 euros de GDF Suez, elle qui avait pourtant juré au Parlement européen n'avoir aucun contrat avec cette entreprise. Les enquêteurs exploreraient aussi ses relations privilégiées avec des pays riches en gisements de pétrole et de gaz. En début d'année, la justice a été alertée par Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, sur de l'argent touché par Rachida Dati jusqu'en 2023, venant d'un homme d'affaires qui pourrait être lié à l'Azerbaïdjan.
Élodie Guéguin, il est encore question de l'actuel ministre de la Culture, puisque l'on aborde cette fois notre suivi de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public proposée par le groupe UDR d'Éric Ciotti, proche du Rassemblement national. Hier, nous avons rendu compte de l'audition de la présidente de Radio France. Ce soir, nous allons vous parler des auditions de deux confrères, Thomas Legrand et Patrick Cohen, et d'une vidéo diffusée par le média L'Incorrect à l'origine de la création de la dite commission. Cette vidéo les montre en présence de deux responsables socialistes. Bonsoir Pierre Repère.
Bonsoir.
Pierre, vous avez suivi les auditions en question. On commence avec celle de Patrick Cohen qui a largement commenté ce qui a mené à la diffusion de la vidéo.
Oui, tout est transparent. Je n'organise pas de campagne clandestine, a assuré Patrick Cohen devant la commission d'enquête. Dès son propos liminaire, le journaliste a contre-attaqué, anticipant les questions du rapporteur, le député UDR Charles Alloncle.
Je répondrai à vos questions et à l'émotion incontestable suscitée par ces images. Émotion amplifiée par une opération de propagande sans limite, visant à dénigrer, à détruire le service public que je représente.
L'éditorialiste politique a dénoncé les méthodes de barbouze des médias du groupe Bolloré et rappelé que CNews avait diffusé en deux semaines 853 fois la séquence à l'origine de l'affaire dite Le Grand Cohen, dont 181 fois les trois premiers jours.
Les accusations que vous relayez résultent d'une manipulation, voire d'une falsification, et nous en ferons justice.
Patrick Cohen a également renvoyé à plusieurs reprises les questions au rapporteur.
J'ai eu, je l'avoue, un grand espoir en vous voyant, il y a une dizaine de jours, partager un micro avec le directeur de l'Incorrect. C'était l'occasion rêvée de montrer que ce qui vous importe est la manifestation de la vérité. Donc, allez-vous, monsieur le rapporteur, demander les vidéos à l'Incorrect.
L'ambiance, vous le voyez, était donc extrêmement tendue. Charles Alloncle l'a interrogé de manière répétée, l'éditorialiste lui demandant s'il condamnait les propos tenus par Thomas Legrand, ce que Patrick Cohen a refusé de faire.
Thomas Legrand, donc Pierre, dont l'audition suivait celle de Patrick Cohen.
Oui, lui aussi a dénoncé des barbouzeries à propos de la façon dont sa rencontre pour un café avec Laurence Bloch, l'ancienne directrice de France Inter a été enregistré et diffusé en début de semaine par Europe 1.
J'ai pris un café avec mon ancienne patronne. Notre discussion a été enregistrée à notre insu. Il s'agit d'une captation illégale suivie d'une utilisation et d'une divulgation de contenu déformé de cette captation. C'est pour moi un acte d'espionnage et d'intimidation.
C'est donc la deuxième fois qu'une vidéo est enregistrée à l'insu de l'éditorialiste de Libération. Pressé de questions, Thomas Legrand est revenu sur la fameuse phrase de la première vidéo. Nous on fait ce qu'il faut pour Rachida Dati. Cette phrase, elle me choque et je comprends qu'elle choque, mais elle me choque parce qu'elle est montée, a insisté l'éditorialiste. Pour lui, la phrase est sortie de son contexte, elle voulait dire « on s'en occupe journalistiquement », ajoute-t-il encore. Des précisions qui n'ont pas convaincu le rapporteur de la commission, Charles Alloncle. Une fois encore, les échanges étaient très vifs, ils sont d'ailleurs toujours en cours actuellement.
Merci Pierre Repère. Du monde, beaucoup de monde à la cour d'assises du Doubs pour assister au verdict contre l'anesthésiste Frédéric Péchier, condamné à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels, plus de 3 mois d'audience, au terme desquels les victimes ont laissé s'exprimer leur soulagement. Un procès suivi à Besançon, par Jean-Philippe Degnaud.
Les traits tirés par la fatigue de 3 mois et demi de procès et par l'émotion d'avoir entendu la justice reconnaître enfin l'empoisonnement d'un proche, les familles des victimes ont quitté le palais de justice soulagées.
Un jour tant attendu, tant d'émotions, un aboutissement, la fin d'un cauchemar.
Il a une attitude déconcertante, hein. On l'a vu sourire quand il s'est rassis à son bureau, sourire à sa sœur, presque rigoler, donc il a l'air totalement déconnecté.
Après 3 mois d'audience, on est content que tous les cas aient été reconnus. Donc on dit merci aux jurés et merci de nous avoir rendu justice.
Il a été déjà condamné une fois, donc on s'attendait à ce qu'il aille en appel, donc... Je pense qu'il sera condamné de la même manière. Sa culpabilité, c'est une évidence aujourd'hui, je pense.
Car avec ce procès en appel, dans un an, il faudra tout reprendre depuis le début, devant une nouvelle formation de jurés et face à un Frédéric Péchier dont la défense promet de venir en force cette fois pour mieux faire entendre l'innocence de son client.
Jean-Philippe Degnaud à Besançon. Que deviennent les plaintes pour violence conjugale après leur dépôt? C'est pour tenter de répondre à cette question qu'une étude inédite a été menée par les services statistiques des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Ils ont mis en commun leurs données pour pouvoir évaluer le traitement judiciaire des violences conjugales et faire le lien entre le nombre de victimes enregistrées par les services de police et de gendarmerie et le traitement pénal des affaires. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir à tous.
Julie, cette étude se base sur les 800 000 victimes de violences conjugales enregistrées par la police et la gendarmerie entre 2018 et 2023.
Oui, les victimes de violences conjugales pour lesquelles les services de sécurité intérieure ont ouvert une procédure après une plainte, un signalement ou un constat fait par les forces de l'ordre. Des violences conjugales réparties en 7 types de violences, allant des violences psychologiques aux tentatives d'homicide en passant par les viols et tentatives de viol. Et ce que l'on constate d'abord, c'est que les violences physiques sont de loin les plus enregistrées. Elles concernent 77% des victimes de violences conjugales. Or, une fois enregistrées par les parquets, les affaires de violences conjugales sont classées sans suite dans 42% des cas. Pour 34% des victimes, les infractions sont insuffisamment caractérisées, précise Pascal Chevalier, chef du service statistique ministériel de la Justice.
On voit bien qu'il y a eu des phénomènes côté violences sexuelles autour de l'affaire MeToo. Il y a une libération de la parole. Et donc, ça conduit aussi à peut-être un classement d'affaires plus important, parce que dans certains cas, le fait de ne pas avoir de caractérisation physique peut rendre plus compliqué le traitement de l'affaire. Puis vous avez des classements sans suite qui sont liés à l'inopportunité des poursuites. Et donc, en général, dans ce type de cas, ce sont des plaignants qui se rétractent ou des mises en cause qu'on n'arrive pas à joindre pour des faits dont la gravité est relativement mineure.
En revanche, 55% des affaires ont fait l'objet de poursuites et au total, un tiers des victimes de violences conjugales ont vu leur affaire jugée par un tribunal correctionnel, des tribunaux qui prononcent des mesures de culpabilité dans 95% des cas. Deux limites sont néanmoins à souligner hein, dans cette étude très fouillée. Les affaires d'homicide, de viol et tentative de viol ont été retirées de l'analyse, car les informations de ces faits de nature criminelle font l'objet d'un traitement spécifique, de même que les homicides conjugaux et féminicides, traités par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur. Ce travail statistique inédit nécessite donc d'être approfondi dans les prochaines années, concèdent les auteurs de ce rapport.
Merci beaucoup, Julie Paco. En Angleterre, les enseignants des collèges et lycées vont recevoir une formation pour repérer justement et combattre les marques de sexisme dans les classes dans le cadre d'une stratégie nationale visant à lutter contre les violences envers les femmes. Cette stratégie répond à une urgence nationale, a déclaré devant le Parlement la secrétaire d'État chargée de la protection des victimes, Jess Phillips. Volodymyr Zelensky est donc à Bruxelles, entouré des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, auxquels il demande sans tarder de se décider sur le financement de l'effort de guerre de l'Ukraine. Son armée et son budget vient un prêt de réparation fonds de 90 milliards d'euros financés par les avoirs russes gelés dans l'Union européenne. Mais cela suscite des réticences, notamment chez la Belgique, qui abrite ces avoirs. Elle craint en effet d'assumer à elle seule ce risque et réclame des garanties. Pour convaincre ses partenaires européens, Volodymyr Zelensky a donc fait le déplacement à Bruxelles et il le dit, Virginie Pironon, l'Ukraine a besoin de cet argent. Virginie Pironon, donc à Bruxelles. Il s'agit maintenant, pardon, de revenir, et nous reviendrons donc sur cet élément qui nous a amené à Bruxelles. Mais tout d'abord, il s'agit de faire état de ces agriculteurs qui sont donc en train de manifester, qui ont manifesté aujourd'hui devant à Bruxelles. Ils étaient 11 000 de toute l'Europe, dont 4 000 Français. À proximité du Parlement européen, donc contre notamment le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains. Parmi les agriculteurs opposés à ce traité de libre-échange, en Europe comme en Amérique du Sud, il y a les membres de la Via Campesina, mouvement paysan mondial. Catherine Pétillon a sollicité sa coordinatrice, Morgane Audi.
Les États qui s'y opposent à l'accord de libre-échange, ça correspond aux pays où il y a une forte présence paysanne et surtout où les paysans, les paysannes pèsent dans le débat public. C'est très clair, par exemple, avec la Pologne. En Pologne, la paysannerie est très importante dans la culture polonaise. C'est le cas aussi en Italie, avec les liens avec la gastronomie. Et donc, dans ces pays, quelle que soit la couleur politique des gouvernements, on va dire, dans ces pays où la paysannerie pèse, c'est le cas en France aussi, du coup, on a réussi à faire en sorte que les gouvernements se positionnent, refusent de signer cet accord avec le Mercosur. Par contre, dans un certain nombre de pays comme l'Espagne ou l'Allemagne, la paysannerie pèse beaucoup moins dans le débat public. Et ben, c'est justement ces pays-là où les gouvernements veulent absolument signer cet accord de libre-échange-là, quitte à sacrifier leurs paysans.
Voilà, Morgane Audi du mouvement Campesina, Via Campesina, mouvement paysan mondial. Chose promise, chose due, et nos excuses pour cette erreur d'aiguillage, et c'est ma grande faute. Reparlons donc de ce prêt de réparation de 90 milliards d'euros financé par les avoirs russes gelés dans l'Union européenne, auquel il compte avec Volodymyr Zelensky, Virginie Pironon.
Exactement, Volodymyr Zelensky estime que ces avoirs russes gelés ne doivent en aucun cas revenir un jour entre les mains du Kremlin. Pour lui, ce prêt de réparation est correct du point de vue juridique.
L'Ukraine a pleinement droit à cet argent, car la Russie nous détruit. Bien sûr, on peut craindre des démarches judiciaires de la part de la Fédération de Russie, mais ce n'est pas aussi effrayant que lorsque la Russie vous attaque à vos frontières. Je vous le dis franchement, pour moi, tant que l'Ukraine défend l'Europe, il faut aider l'Ukraine.
Kiev a absolument besoin pour les deux années qui viennent de 90 milliards d'euros. Pour l'instant, l'Ukraine a de quoi fonctionner jusqu'à la fin du premier trimestre 2026. Après, c'est un point d'interrogation. Point d'interrogation également sur les garanties de sécurité négociées en ce moment pour l'Ukraine.
Il y a une question à laquelle je ne peux pas encore obtenir de réponse. Sur les garanties de sécurité qui ressembleraient à l'article 5 de l'OTAN. Que feront les États-Unis d'Amérique si la Russie nous agresse à nouveau? Comment cela fonctionnera concrètement?
Pour le président ukrainien, obtenir ce financement crucial de la part des pays de l'Union européenne lui permettra justement d'être plus confiant dans les pourparlers en cours avec les États-Unis.
Fermons cette édition avec cette question. Maurice Ravel a-t-il encore des secrets à nous livrer près d'un siècle après sa disparition? L'une de ses toutes premières compositions, intitulée Semiramis, sera intégralement interprétée ce soir à la Philharmonie de Paris. À la baguette pour cette première mondiale, comme hier soir d'ailleurs, le chef Alain Altinoglou avec l'Orchestre de Paris. François Dru, responsable éditorial de Ravel Édition, revient sur la genèse de cette cantate inconnue du grand public qui était tombée dans l'oubli dans les tiroirs de la BNF pendant une vingtaine d'années.
En fait, en 2000, la Bibliothèque nationale, lors d'une vente publique, une vente aux enchères à Drouot, avait pu faire l'acquisition d'une collection assez importante de manuscrits de jeunesse de Ravel, dont les cantates, et donc Semiramis, ce manuscrit, était accessible depuis de longues années. Et quand on étudie cette œuvre, Semiramis, évidemment, on perçoit tout de suite les affinités électives de Ravel avec l'utilisation de l'outil orchestre. Et aussi, ce qu'on souligne jamais assez, c'est les affinités de Ravel avec la chose lyrique, avec la prosodie, avec la manière de traiter la voix, la manière de conter une histoire. Et c'est là où, justement, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est de jauger, il est influencé par ses pairs. C'est pas encore son style. Semiramis, c'est pas le Ravel, 10 ans après, Daphnis et Chloé, de Ma mère loi. Il cherchait encore sa voix. Et le prélude des danses, qui est l'ouverture de cette cantate, alors là, c'est clairement influencé par les Russes. Vous avez l'impression d'entendre une page de Borodine, de Rimsky-Korsakov, de Scheherazade, ou de ses poèmes symphoniques. Donc voilà, c'est arrivé, cela arrive cette année. Nous avons retrouvé d'autres inédits qui vont être joués lors des prochaines saisons. Et il reste du travail à faire. Il y a encore des choses. Il y a toujours des manuscrits qui n'ont pas été édités, qui étaient sur les étagères.
Voilà des propos recueillis par Hugo Jorion. Quelques mots de la météo de demain vendredi. Ciel couvert en journée. La Nouvelle-Aquitaine au centre, Île-de-France, Champagne-Ardennes et Lorraine avec des pluies généralement faibles. Sur le sud-est, des pluies devenant soutenues sur les Cévennes et ses contreforts, voire plus localement en plaine du Languedoc. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, à la technique Alex Dang.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Avec à 18h15 notre rendez-vous hebdomadaire jusqu'aux élections municipales, il s'intéresse aujourd'hui à un défi pour de nombreux élus de communes rurales, l'accès à l'ingénierie. Il est une chose de vouloir rénover sa commune, bâtir de nouvelles infrastructures ou réaliser des travaux, mais comment mettre ses idées à exécution sans le savoir technique indispensable à toute réalisation ? Dans ces situations, beaucoup de maires se retrouvent démunis. Lors du dernier congrès des maires de France qui s'est tenu en novembre dernier à Paris, une table ronde a justement été organisée afin d'aiguiller ces édiles pour faire de leurs idées une réalité. C'est un reportage de Jeanne Serrin.
La table ronde a débuté il y a un peu plus d'une heure lorsque Franck Pinon se lève du public et réclame le micro.
Oui, bonjour. Donc je m'appelle Franck Pinon. Je suis un jeune maire, alors vous vous fiez surtout pas à ma tête.
Élu l'année dernière, à 57 ans, après une élection partielle, il est maire de Saint-Georges-de-Montclar, commune de 253 habitants en Dordogne.
On a été élu le 19 avril avec mes colistiers. Et le 5 mai, on avait nos bottes et de l'eau jusqu'à demi-botte parce que le village était inondé. Donc on peut dire qu'on a mouillé la chemise dès le début. Donc il faut revoir toutes les canalisations d'évacuation des eaux pluviales. Et j'ai besoin de savoir où trouver des sous, j'ai besoin d'architectes, j'ai besoin d'urbanistes pour nous accompagner dans la mise en place de ce projet.
J'ai eu le sentiment d'être laissé à l'abandon, ajoute le maire. Il finit par toquer à la porte de l'agence technique départementale et bénéficie de l'aide d'ingénieurs. Ces experts lui soumettent alors l'idée de créer une zone humide dans sa commune.
C'est grâce aux ingénieurs de l'ATD 24 que ces pistes-là ont pu émerger. Nous, même si on peut poser un regard sur la connaissance qu'on a de notre territoire, la technicité, on ne l'a pas.
Pour accéder à ces compétences techniques, plusieurs acteurs publics essaiment les territoires, les agences techniques départementales, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ou encore l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Mais ces ressources sont souvent méconnues. Alors pour s'y retrouver, c'est le préfet qui joue un rôle de liant, résume Cécile Gallien, maire de Vauray-sur-Arzon en Haute-Loire.
Aujourd'hui, ils sont là pour faciliter la vie des maires et surtout l'accès à l'ingénierie. Donc normalement, ils peuvent vous trouver l'ingénierie qui va bien par rapport à votre projet.
Lui aussi a dû faire appel à des services d'ingénierie publique. Gérard Fillon, maire de Beuré-sur-Sault dans la Meuse. Dans son département, plusieurs communes subissent depuis juin dernier une contamination de leurs eaux au PFAS, ces polluants éternels qui peuvent être responsables de cancers, entre autres. Depuis, les captages d'eau sont fermés et il faut refaire tout le réseau d'assainissement. Un vrai casse-tête, témoigne sur la scène du congrès de l'AMF Gérard Fillon.
C'est vraiment le type même de la catastrophe qui peut arriver à un maire. On n'a même pas idée du moment où ça pourra être fait, parce qu'il va falloir refaire les réseaux, etc. Donc, comment faire ? Alors, sur l'aspect technique, on saura faire. Évidemment, c'est l'aspect financier qui pose problème. Les sommes se comptent par millions d'euros dans des petites communes de moins de 200 habitants.
Et pour monter des dossiers de demande de subvention, c'est un autre casse-tête qui démarre.
Il y a une ingénierie tout simplement de montage de demandes de subvention.
Edmond Jorda est maire de Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales, département qui accompagne actuellement 15 projets d'ingénierie dans des communes de moins de 1500 habitants.
Des projets qui vont créer de l'autonomie financière pour la commune, qui va pouvoir du coup autofinancer d'autres projets en cascade. L'accès à l'ingénierie ou le défaut d'accès à l'ingénierie, c'est une grande fracture territoriale pour notre pays. Et on se rend compte que ce sont les territoires qui sont les plus organisés, donc les plus nantis, qui à chaque fois captent le plus de subventions. L'enjeu, il faut bien se rendre compte, c'est un enjeu d'égalité entre les citoyens.
Un enjeu extrêmement noble, ajoute l'élu, car la ruralité a des ambitions et a le droit de les porter.
Cet accès à l'ingénierie est donc en grande majorité assuré par des agences publiques et certaines d'entre elles sont aujourd'hui menacées. C'est le cas des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Jeanne Serrin, pour prolonger ce reportage, vous vous êtes entretenu avec Joël Beaugrasset, vice-président du département de Haute-Savoie Les Républicains et président de la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
Joël Beaugrasset, pouvez-vous tout d'abord nous rappeler depuis quand les CAE existent?
Alors,
et quel est leur rôle?
En fait, ce sont des organismes qui sont issus de la loi de 1977, la loi sur l'architecture. Ces structures CAUE sont financées donc par des fonds publics, par une taxe, et ce qui veut dire que derrière, ils apportent un conseil gratuit, moyennant que les collectivités adhèrent à cette structure. Donc en fait, c'est une forme associative, présidée par des élus, financée par des fonds publics, à destination, bien sûr, des collectivités locales, mais également aussi des habitants qui voudraient avoir un conseil gratuit auprès d'un architecte pour un projet personnel quelconque.
Et très concrètement, comment cela fonctionne? Un maire veut lancer un projet d'urbanisme et il vous contacte?
Oui, ben voilà, monsieur et madame le maire d'une commune lambda appelle le CAUE et donc un architecte salarié du CAUE va se rendre dans la commune et va discuter, entrer en dialogue avec la mairie pour comprendre les besoins, que ce soit pour la construction d'une école, une extension de bâtiment, un espace public, une désimperméabilisation de cours d'école. Et donc, dans ce cadre-là, le CAUE va accompagner en amont du projet, c'est-à-dire que va aider l'élu local à préparer la commande. Donc, le CAUE ne fait pas à la place d'eux, ne fait pas de maîtrise d'œuvre, donc ne va pas prendre le travail d'un architecte ou d'un paysagiste, mais va au contraire aider à formaliser la phase amont, toute la partie du programme de la construction, de l'aménagement ou tout autre.
Est-ce que vous diriez que les CAUE sont connus aujourd'hui des maires ou qu'il faut plutôt, vous, que vous procédiez à une démarche d'aller vers pour vous faire connaître?
Oui, ben on a cette démarche-là à partir du moment où il y a un renouvellement électoral. On a cette démarche d'aller vers pour les rencontrer, leur expliquer ce qu'on est capable de faire pour eux. C'est un temps important, enfin la première année, par exemple, on va prendre l'exemple de 2026, à partir d'avril, mai, juin, on va prendre notre bâton de pèlerin et on va aller rencontrer les collectivités locales pour se présenter par bassin de vie, par territoire, et puis leur expliquer ce que l'on peut faire au niveau des CAUE.
Donc au sein d'un CAUE, quelles sont les compétences qu'on peut retrouver? Quels sont les métiers qui sont présents?
Alors, nous avons des architectes, des urbanistes, des paysagistes, mais aussi la souplesse et l'intelligence des CAUE, étant donné qu'on est sous forme associative, ça nous donne une agilité qui nous permet de répondre à des besoins spécifiques. On va aussi travailler, par exemple, avec des sociologues. Une concrétisation d'un acte politique, c'est une façon d'écrire un récit. Et donc, les CAUE sont vraiment là pour aider à l'écriture de ce récit, et c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui, je trouve, pour la stabilité de notre société, c'est qu'il faut qu'on arrive à écrire un récit commun. Et le récit commun, aujourd'hui, il est compliqué.
Vous l'avez dit, les CAUE sont financés en grande majorité, hein, à 80% par une taxe, la taxe d'aménagement. Mais ces dernières années, le système de perception de cette taxe a évolué. Il passe désormais par les services du ministère de l'économie, chose que Bercy a, selon votre fédération, mal anticipée. Résultat, vous subissez des retards de perception et certains CAUE sont aujourd'hui menacés. Pourquoi est-ce, selon vous, important de les défendre ?
Alors malheureusement, il y a certains départements qui sont déjà en difficulté aujourd'hui, ils se disent « nous, on ne peut plus financer, faire des avances de trésorerie ». Et donc, on arrête le travail des CAUE. Donc le CAUE de la Manche s'est vu complètement disloqué dernièrement. Et donc, ces 14 agents qui travaillaient au service de l'architecture, l'urbanisme et l'environnement pour le département de la Manche, tout le monde s'est retrouvé au chômage. Un outil comme le CAUE, qui est un outil neutre, bien sûr présidé par des élus, mais je veux dire, même moi en tant que président de ce CAUE, même si j'ai mon étiquette politique, on va servir et accompagner toutes les collectivités dans l'esprit d'un service public de l'architecture. C'est un service public pour moi qui est important pour donner de la compétence à un élu. C'est pas parce que le soir de l'élection, on est validé par les électeurs, qu'on a tout d'un coup toutes les compétences requises pour arriver à gérer la complexité qui nous attend.
Joël Beaugrasset, vice-président du département de Haute-Savoie, Les Républicains et président de la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Maire, pourquoi faire l'accès à l'ingénierie un défi pour de nombreux élus de communes rurales, signé Jeanne Serrin, à retrouver sur franceculture.fr.